Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bé, 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 bé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Qui sommes-nous? Qu'est chacun de nous sinon une combinaison d'expériences, d'informations, de lectures, de rêveries? Chaque vie est une encyclopédie, une bibliothèque, un inventaire d'objets, un échantillonnage de styles où tout peut se mêler et se réorganiser de toutes les manières possibles. Cette phrase d'Italo Calvino concluait votre catalogue 0-25 il y a déjà quelques années, Géraldine Koziak. Le livre que vous venez de publier aux éditions Grasset dans la collection Le Courage s'appelle « Chez nous ». Il mêle des textes courts et des dessins et le « Chez nous » y prend des dimensions plus ou moins intimes. En dézoomant, en changeant les prénoms, les noms, en changeant les lieux, on peut y entrevoir les contours d'un « Chez nous » plus vaste, une époque, un modèle social, des enfances, une histoire et cela en fait toute la richesse. Bonsoir Géraldine Koziak.
Bonsoir.
Vous avez écrit, vous avez dit que chaque livre est le moment pour vous de vous remettre à la place de celle qui ne sait pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ce fut le cas aussi pour celui-ci?
Oui, je pense, je l'ai dit dans le sens où je ne veux pas être spécialiste d'une pratique. Donc le fait de recommencer le livre en pensant qu'il était comme le premier, ça vous met dans une certaine concentration pour bien faire. Donc c'est pour ça que je pense ça encore maintenant. Et que le chez nous, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment d'avoir observé pendant des années d'où je venais et d'être partie, de revenir de temps en temps et de me concentrer à observer tout ce qui se passait autour de moi et de cet endroit. Et comme un paysage, en fait, d'écrire un paysage.
Ne pas savoir faire, dans le cas de votre pratique, c'est que vous avez l'impression de vous remettre à un endroit de vous-même où vous ne savez plus dessiner, vous ne savez plus mettre en mots vos impressions. Vous vous dites ça de manière artificielle ou c'est quelque chose que vous ressentez vraiment?
Je me disais l'autre jour qu'en fait, j'avais l'impression d'être comme quelqu'un qui fait de l'art brut, mais qui en a conscience. C'est assez étonnant. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, le dessin, plus on le pratique, plus il est acquis. Mais il n'est pas vraiment toujours à sa place. C'est-à-dire que je ne dessine plus comme il y a 20 ans. Et des fois, j'en suis un peu triste parce que c'était plus naïf et peut-être plus fragile. J'adore les dessins du Moyen-Âge par leur imprécision par moment. Et des fois, le fait que tout soit un peu démesuré ou pas toujours à sa place, qui donne une grande sensibilité. Et en fait, pour moi, le travail est un peu à toujours trouver le sensible. Et quand on est un peu trop professionnel, on perd ça de vue. Donc, c'est pour ça que je dis ne jamais être trop spécialiste. En tout cas, pour un artiste, c'est bien. Sinon, on ne fait que de la forme. Et en fait, ça, j'essaye de l'éviter. Et donc, c'est pour ça que, aussi avec ce livre, je me suis un petit peu mis en distance. Et puis, le dessin, j'ai essayé d'aller ailleurs. Parce qu'il y a eu des moments où, quand je faisais des livres, ça marchait plutôt bien. On me disait qu'il fallait continuer, comme un genre de série. Et là, j'arrêtais tout de suite. Et des fois, ça prend plus de temps quand on travaille comme ça. Il faut un petit peu... oui, ça prend plus de temps parce que quand on ne fait pas de série, quand on ne va pas là où on vous attend, eh ben à chaque fois ça recommence. Donc il faut reparler de ce qu'on fait, rejouer une carte qui n'est pas dans la communication, mais dans une sorte de, on met des éléments les uns après les autres. C'est un jeu un peu de Lego et on voit ce que ça qui se passe après une dizaine de livres et puis on voit qu'il y a des choses qui commencent à faire des échos et ça me paraît vraiment intéressant dans un, comme je travaille en tout cas avec le texte et le dessin. C'est ce qui me, c'est compliqué ça, de mettre en place les deux pour que ce soit juste et équilibré. Et ça, c'est ça que j'aime bien faire.
On va donner à entendre dans quelques instants les mots, vos mots. Ce sera plus difficile de donner à entendre vos dessins, mais on va essayer. J'ai pas pu me défaire, vous parlez d'un dessin du Moyen-Âge, moi je n'ai pas pu me défaire des dessins qu'on trouve sur certaines cartes de tarot ou sur certaines cartes à jouer. Est-ce que ça fait partie des choses vues qui ont nourri ce dessin-là?
Ah oui, tout. En fait, tout est mélangé. À un moment donné, j'aime aussi bien les enluminures, les jeux de tarot, les jeux. En fait, c'est vraiment un gros mélange de toutes mes influences et après en ressortir quelque chose qui... Le dessin est intemporel, donc ça, c'est ça aussi que j'aime bien dans un texte. C'est-à-dire que Sebald disait une chose juste avec les images qu'il mettait dans ses textes. Il disait que ça faisait apparaître les fantômes. Pour moi aussi, le dessin est comme ça. Il dit une chose que le texte ne peut pas dire et vice-versa. Donc, les faire jouer les deux ensemble, ça, c'est assez passionnant. Et c'est pour ça que le fait du dessin, il est nourri à chaque fois de plein de références et on se dit « Ah, mais j'ai déjà vu ça quelque part » et j'adore faire travailler la mémoire collective. Donc ça fait qu'on se dit « Tiens, c'est peut-être sur un jeu de tarot, mais c'est peut-être sur une affiche que j'ai vu ça, ou dans un musée, ou peut-être dans un livre. » Et ça mélange un peu les pistes comme ça aussi.
Est-ce qui fait de votre dessin quelque chose de non solitaire? Il y a vraiment un entrechoquement des images dans un seul et même dessin. Parce que peut-être vous-même, savez-vous d'où viennent toutes les images qui composent le trait ou le seul trait ou la seule image que vous placez dans cette page-là? Pas forcément.
Ah, je m'entoure bien, j'enquête avant. je veux dire, mais j'ai plein d'amis, quoi, d'amis fantômes, quoi, ou d'amis qui sont des ancêtres de dessin et que j'essaye de. J'aime bien les avoir là. C'est comme les livres, même si vous lisez pas tout le jour où vous les achetez, j'aime bien sentir comme une présence. Et le dessin, c'est pareil. En fait, je pense que quand je pars sur un projet, je me dis, ah tiens, là, plutôt dans ce genre-là, et là, je prends plein d'images, je vais à la bibliothèque, je cherche.
Vous les fréquentez. Ils sont dans votre entourage pendant le moment où vous écrivez ou où vous travaillez.
Une belle fréquentation, oui. Pour travailler, c'est en fait, je pense qu'il faut être bien entouré. C'est comme partout.
Chez nous, l'injustice, quand elle frappait les autres, n'était pas trop difficile à supporter. Chez nous, la mère de ma mère pensait que l'homme était effrayant, que s'il n'existait pas, les villes n'existeraient pas non plus, et que le monde serait le domaine des cerfs et des sangliers. Chez nous, on doutait de tout. Les certitudes des autres nous terrifiaient. Chez nous, mon arrière-grand-mère maternelle, Marguerite, portait une blouse grise, des bas noirs, un foulard mauve et rose noué autour du cou. Elle était grande et mince, les cheveux argentés. Chez nous, nous ne savions plus pourquoi nous appelions mon arrière-grand-mère Marguerite, alors que son vrai prénom était Marthe. Chez nous, mon grand-père paternel Zygmunt était un immigré polonais. Il disait en désignant de sa canne les bêtes et les plantes, « Il est important que l'on sache ce que l'on voit. On doit peu à peu, au moins tout désigner et savoir d'où cela vient, ce qui est. » Chez nous, dès son arrivée en France, la mère de mon grand-père ne l'appela plus Zygmunt, mais Simon. Chez nous, nous ne parlions pas polonais, nous ne parlions que français. Chez nous, on n'avait rien contre les étrangers, mais on n'aimait pas les fainéants et les profiteurs. Chez nous, mon père était né dans la chambre de ses parents, une pièce presque carrée, 4 mètres et 40 centimètres d'un côté contre 4 mètres de l'autre. Chez nous, mon arrière-grand-père paternel Fernand disait « La mort n'a aucun rapport avec nous, car ce qui est dissous est insensible, et ce qui est insensible n'a aucun rapport avec nous. » Chez nous, Fernand pensait que s'il n'y avait pas de guerre ou de révolution, il n'y aurait pas d'histoire, et que les hommes n'auraient rien à raconter.
Rien à raconter, c'est manifestement pas du tout votre cas, Géraldine Kosiak, qu'on entend ici dans la voix de Romain de Bec de Lièvre, le tout début de votre livre « Chez nous ». Comment est arrivée cette formule qui va scander la totalité de votre texte ?
Ah, c'est assez simple, ça. C'est en fait, quand je commence un livre, il me faut souvent le titre. Et en fait, comme j'ai la chance de voyager assez souvent, à chaque fois que j'arrivais quelque part, au bout d'un quart d'heure de conversation, les gens vous disent « Ah ben, chez nous !» Et hop, ça part. Ils vous racontent leur vie. Et je me suis dit, il y a quelques années déjà, que ce « chez nous », J'écrivais un peu sur l'endroit d'où je venais et je me suis dit ouais, mais c'est ça, c'est chez nous, c'est ce chez nous là, c'est la France, c'est avec ces gens qui sont tous différents et j'aimais bien. C'est venu assez simplement, oui, c'est vraiment des histoires où quand ça part chez nous, c'est venu un peu immédiatement quand je me suis dit que j'ai commencé à écrire sur l'endroit d'où je venais. Ça, c'est vraiment
à partir du moment où vous l'avez trouvé, cette petite locution du chez nous, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées ou qui vous sont revenues et que vous n'imaginiez pas qu'elles allaient profiter de cette petite expression pour se rappeler à votre mémoire?
Oui, oui, ça vient immédiatement parce que ça, ce rythme de la lisse comme ça qui se rajoute. En fait, au début, vous y allez gentiment et puis après, vous dites « Ah, mais... Ah, lui, il n'était pas très sympa. Tiens, je devrais rajouter un petit truc sur lui. Et puis, qu'est-ce que ça fait ? Après, vous commencez à repenser à l'ambiance d'un village, à l'ambiance de comment il a progressé, comment il s'est transformé. Et ça, ça a été vraiment important. Parce que j'ai une chance et aussi la malchance d'être dans un endroit, un no man's land, maintenant qu'on pourrait appeler en bordure des villes où il y a des centres commerciaux qui se sont installés. Donc, à un moment donné, ça arrive et on peut plus s'arrêter hein, quand on commence à parler de la famille, de l'endroit d'où vous venez, des gens que vous connaissez, du lieu qui se transforme. Vous pouvez, et en plus, c'est un petit livre, hein, je me suis arrêtée, j'en ai enlevé beaucoup pour que ça soit toujours juste. C'est ce que je pensais souvent, c'est pas toujours, les anecdotes ne sont pas toujours vraies. Mais j'essaye qu'elle soit juste pour donner un rythme. Ça, le rythme est quand même très important pour créer une ambiance d'un lieu. C'est vraiment comme ça que je vois cette interprétation de ce livre.
Vous parlez beaucoup d'endroits et de lieux d'où vous venez. Alors, en effet, c'est très présent dans votre livre chez nous, mais c'est peut-être encore moins présent que les personnes qui peuplent cet endroit. Alors que vous, Géraldine Koziak, le début de votre travail et le sens de votre travail au départ, ça a été de dépeindre un lieu, un endroit, comme sorte de point de départ.
En fait, j'étais plus proche des photographes à ce moment-là. Je pensais plus à des gens comme Walker Evans, vraiment tout Dorothy Lange, il y avait des Diane Arbus. J'étais plutôt dans ce rapport même de pardon. En fait, c'était comment on décrit, hein, comment on regarde. Et en fait, l'humain arrive, il est forcément dans le paysage. Et ses interprétations, c'est ça la force aussi des mots, ce qu'on ne voit pas forcément dans les images. C'est Evans quand il est parti avec James Sagi en 37 pour voir les États-Unis, la dépression, la grande dépression, après dépression, qu'est-ce que ça donne, comment on observe ça. Donc j'étais plus proche de ça, je pensais à ces images-là. Comment regarder, là on a évidemment pas une grande dépression, mais on a des changements, on a je pense qu'on est dans des époques de transition, et ça c'était important de parler des gens pour voir ce qu'ils avaient vécu, ce que j'avais, je suis pas très vieille, mais j'ai vu une époque et j'en ai vu une autre, et ça s'est passé très rapidement. Donc le mot me permet aussi de voir comment, en écoutant les gens, de parler, de mon père qui chasse, de mon frère aussi, ma mère qui cuisine. En fait, toute cette époque où le rapport à la famille est très très présent. Et après, comment des gens qui faisaient leur jardin se retrouvent à aller acheter à manger au Cora et ne plus par moment cultiver. On avait plusieurs agriculteurs, il y en a de moins en moins, et jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et puis on continue à aller manger aussi à la cafétéria, à Buffalo Grill, tout ce qui nous entoure, et on se demande pourquoi. Alors c'était assez drôle. Mon père me dit toujours, on peut rien contre le progrès. Oui, c'est vrai. Bon, alors moi, je peux rien, mais je fais à ma petite échelle. Je dis quand même, on déconne un peu, quoi. Et c'est un peu ça qui fait que je suis obligée de prendre les gens qui sont là, parce qu'il y a des phrases, il y a des situations qui décrivent le paysage d'avant.
Mais dont vous laissez entendre là, à vous écouter parler, que c'est un paysage qui est très clairement en voie de disparition. Parce que, Géraldine Koziak, combien de personnes pourraient dire que le monde dans lequel ils ont vécu enfants et adolescents est un monde dans lequel ils ne peuvent plus vivre adultes, que l'époque a changé, que les temps ont changé. Vous vous dites que c'est assez singulièrement propre à notre époque, que vous avez l'impression d'une fracture très 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 nette entre le monde de votre enfance et de votre adolescence et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Plus forte.
Bah, je pense que c'est net, mais sauf qu'on ne s'en aperçoit pas énormément parce que ça va tout doucement et c'est passé par des phases où on nous fait on y fait prendre des choses pour acquis et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire comme on l'a vu avec Internet, comme faire ses courses en ligne pour des gens qui sont à la campagne. Il y a vraiment des choses où on se dit oui, mais on peut pas faire autrement. C'est vraiment la. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois et voire des centaines de fois. Les gens sont comme paralysés et ils ont une grande peur, mais ils sont obligés de faire avec. Comment on fait quand il y a ça? On fait avec. On nous a imposé l'intercommunalité pour le bien de chacun. C'est ce que je dis. Moi, je viens d'un village où l'intercommunalité, elle est bien pour tous, sauf que nous, on est un peu la décharge de tout cet endroit. Je trouve que il y a un moment donné où on ne fait pas assez attention au bien-être des gens et surtout, on n'a pas les mêmes besoins à chaque endroit.
Et vous, le travail que vous entreprenez, c'est de faire une sorte d'opération d'attention, mais d'attention portée à la manière dont les choses étaient avant. Est-ce que vous avez rappelé des souvenirs aux personnes que vous décrivez? Est-ce que vous avez raconté des choses dont vous vous souveniez, vous, et qu'eux avaient même oublié qu'ils pouvaient faire comme ça avant?
C'est plutôt le contraire, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas vraiment autant de souvenirs que ça. Mais c'est en parlant aux gens, à ma mère surtout, que les souvenirs sont revenus pour elle. Et d'un coup, on a commencé à se dire, ah tiens, comment ça a bougé pour nous? Et comment on en est arrivé là? Et c'est vrai que ma mère a été vraiment très présente, parce que je voulais aussi lui montrer ce que j'écrivais à chaque fois, parce que je voulais pas non plus la choquer, ou parce que ça aussi, ça montre une réalité qu'on n'a pas forcément vue, mais dès l'instant où les souvenirs sont les uns après les autres, c'est là qu'on voit un ensemble. Si vous dites un souvenir, la personne se dit ouais, c'est soit sympathique, soit. Mais la liste fait que ça charge beaucoup plus, et d'un coup on se dit mais où on est, comment on a pu bouger autant et aussi vite en 30, 40 ans pour eux. Et mais ils sont toujours très bien dans l'endroit où ils sont, sauf qu'ils se sont fait un peu envahir par beaucoup de choses et se dire qu'on peut vivre toujours aussi à l'aise, mais avec des choses qui sont un peu qui parasitent l'esprit. C'est très compliqué de vivre au milieu de centres commerciaux, quoi. Je veux dire, qui aimerait habiter au milieu de ça? Mais quand vous en avez un qui arrive, vous dites, bon, il y en aura peut-être deux. Mais là, c'est des hectares après. Donc, c'est là que je dis que ça vient tout doucement. Donc, la transition ou la rupture n'est pas si violente que ça. Elle est petit à petit. Et d'un coup, ça s'affirme dans le paysage comme si ça avait toujours été là. Puis l'autoroute,
ça
devient des zones comme ça. Et il en faut certainement. Je ne juge pas ça. Mais pas chez moi. Il fallait juste que ce soit dans le village d'à côté. Mais à chaque fois, on repousse.
Ça dit ça, vous croyez, Géraldine Koziak? Le chez nous, ça dit chez les autres, mais pas chez moi?
Ah, ça le dit. Non, le livre ne dit pas ça. Mais ça peut se dire à l'intérieur de ce que des personnes disent. Je pense qu'on peut l'entendre comme ça. C'est-à-dire, c'est comme les étourneaux. Qui sont envoyés un peu ailleurs parce qu'ils arrivent en masse et on les fait aller chez les voisins pour qu'ils fassent leurs besoins. Et après, plus c'est loin, on connaît ça, quoi. On l'entend tous les jours. Donc évidemment, ce livre ne dit pas ça. Il constate simplement, pour moi.
Dans le volume sur le vertige de la liste, on fait une différence que... D'ailleurs, ça n'a pas été inventé par moi, entre la liste pratique et la liste poétique. La liste pratique, c'est une liste finie. La liste de livres qu'il y a dans ma bibliothèque, ou la liste de choses que je veux acheter au prix unique. Et dans ce sens-là, la liste de 12 questions idiotes, c'était une liste finie. Les listes finies ne nous intéressent pas. Même le bottin, c'est une liste finie, parce que si demain il y a un nouveau abonné, on fait un nouveau bottin. Ce n'est pas le précédent. Tandis que la liste poétique se termine idéalement par un etc. Elle ne s'arrête jamais. Il y a évidemment des façons poétiques de lire des listes pratiques. Je peux prendre le bottin. Alors, le bottin, liste pratique, devient liste poétique dans la mesure où comme Mallarmé, je commence à mêler les pages. Et donc, à inventer toujours des histoires différentes. Donc, les 12 questions idiotes, c'était une liste pratique sans aucune importance. Je vais seulement me souvenir de la première. Pourquoi vous avez intitulé votre livre Le nom de la rose? Réponse, parce que Pinocchio était déjà sous copyright.
C'est une archive d'Umberto Eco au micro d'Arnaud Laporte en 2009 sur France Culture, Géraldine Kozak, pour vous faire parler de la forme que prend votre livre. Alors d'une part, êtes-vous d'accord pour dire que ça prend la forme d'une liste? Est-ce que vous concédez à dire qu'il s'agit d'une longue liste?
J'ai pas vraiment l'impression que c'est une longue liste. Pour moi, c'est plus... En fait, chez nous, c'était comme une ritournelle. Vous savez, ça commence et en fait, ça vous rentre dans la tête et hop, on en rajoute pour que la ritournelle continue. Et j'aime bien cette idée de la liste avec le poétique, avec ce etc. Moi, j'ai l'impression que mes livres n'ont jamais vraiment de début ni de fin. Alors, j'essaye de me dire que c'est je faisais souvent les livres comme je n'ai pas de mémoire pour me rappeler de ce que je pense au moment où je l'ai fait. Et comme ça, chaque année, j'essaye d'avoir des post-it comme ça. Et ben moi, c'est les livres.
Ce qui vous rapproche quand même pour deux raisons de Robert Filliou. Parce que oui, Robert Filliou faisait des poèmes à compléter, des poèmes qui restaient ouverts comme ça, avec des grands, etc. Et aussi, il avait fait toute une installation dans une galerie en Allemagne où il mettait des post-it à chaque fois qu'il avait une idée. Et puis, il sortait. Et puis
Mais c'est un de mes artistes préférés. Mmh. Donc, bien sûr, ça, cette poésie de Filliou, cette précision, cette intelligence, ça c'est tellement beau aussi dans des artistes comme ces gens-là. Donc moi je trouve que c'est sûr que quand on pense plutôt à mettre des choses, c'est pour ça que je dis que la liste c'est un temps précis et pour moi c'est une continuité. La ritournelle est plus, elle évoque plus ce livre-là. Et c'est la première fois que je le lisais à voix haute. Habituellement, je ne fais jamais ça, mais comme s'il fallait que j'entende une voix.
Et ça qui serait aussi... pas la vôtre exactement, ou précisément qui serait la vôtre pour porter ces mots-là?
Eh ben, peut-être pour justement la trouver, pour qu'il y ait un rythme qui s'impose et que je le perde pas. Donc, le fait de le dire à voix haute, lire le texte à chaque fois. Alors, j'étais vraiment dans un rapport. Chaque phrase, je la relisais à voix haute. Ça, c'était vraiment. J'ai jamais fait ça avant. Et puis, au fil du temps, quelques pages, et je continuais pour que ça crée vraiment comme une mélodie. Je sais pas ce que ça me faisait, mais je me suis dit qu'à un moment donné, ça serait très bien que ça soit lu à voix haute.
Bon, bah alors allez-y, je peux pas résister. Ah, mais il est ouvert à côté de moi. C'est complètement au hasard.
Alors, chez nous, tout le monde avait des surnoms. Nos prénoms semblaient toujours trop longs à porter. Chez nous, Gigi avait nommé son chien Ulysse, mais il l'appelait Dick. Chez nous, les amis de mon frère s'appelaient Sos, Babet, Sma, Woods, Dan. Chez nous, la Bellou était un garçon manqué. Chez nous, le Lonlon ne dormait pas dans le lit douillet d'une maison confortable. Il habitait partout et nulle part. Chez nous, les mamaches étaient syndicalistes. Chez nous, la yéyette partait à la chasse en mobilette, son fusil accroché dans le dos. Chez nous, il ne fallait pas que les choses nous coûtent un bras. Chez nous, on faisait ce que l'on pouvait avec ce que l'on avait. Chez nous, avant, il y avait ceux qui travaillaient à l'usine chimique Solvay et ceux qui travaillaient à l'hôpital psychiatrique. Plus tard, il y a eu ceux qui travaillaient à Cora et ceux qui ne travaillaient plus. Chez nous, on était attaché à sa région et à sa profession.
Est-ce que vous avez eu l'impression de faire revenir, là on entend des noms, Yéyette, la Bellou, est-ce que vous avez aussi l'impression de faire revenir un langage?
Oui, c'est vrai. Oh oui, maintenant que vous me le dites comme ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait ces consonances comme ça. Et en fait, dans le langage, c'était très, très vivant. Vraiment. Et j'adorais quand on disait le long long, on savait immédiatement de qui on parlait. C'était pas du tout méchant. C'était pour identifier presque une situation. Et même là, je parle de beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc, c'est aussi de parler des morts, c'est de les faire encore être là. Donc, c'est aussi de ramener un peu ce passé, mais c'est pas vraiment de la nostalgie. C'est aussi une France où, c'est vrai que dans beaucoup de villages, on parle comme ça, on connaît toutes les histoires de chacun, on connaît des détails qui, maintenant que j'habite à la ville, ont pris une distance. Je ne sais plus vraiment ce que fait mon voisin, hein, mais j'étais attentive à tout ce qui pouvait se passer dans ce village. Je savais exactement ce que faisaient les gens. Je savais quand les gens étaient malades, parce que tout le monde parlait de ça. Et moi, les premières histoires aussi que j'ai entendues, c'est des histoires de chasse par mon père. Donc c'était assez beau, ce côté très primaire, comme ça, où d'un coup, mon père ne raconte, et il continue, il ne raconte que des histoires de chasse. Donc quand on était à la maison, c'était vraiment de ramener la nature chez moi, et en fait aussi d'avoir des animaux vivants, des animaux morts. Il y avait un mélange comme ça qui était très très dynamique. Et ça, ça me manque peut-être encore un peu.
Mais en même temps, des animaux, alors je ne sais pas s'ils sont exactement vivants ou morts dans vos dessins, mais ils sont présents. On a parlé des textes, Géraldine Kozak, et de cette ritournelle engagée par le « chez nous » du début de chaque phrase. Et puis il y a les dessins, qui n'ont pas toujours des proportions égales, qui n'arrivent pas toujours au même moment, ni à la même rythmique dans la pagination, dans la mise en page, excusez-moi. Et je ne sais pas si, par exemple, on parle de ce dessin-là, du dessin qui est sur la page que vous avez lue. Est-ce que vous pouvez essayer de le décrire et de dire quel est le dialogue ou la tension que vous avez essayé d'instaurer avec le texte ?
Alors c'est par rapport à une phrase précise, là, c'est « Chez nous, le bonheur de notre enfance sortait des cailloux, tombait des arbres. On ne pensait à rien et on profitait de ce temps d'innocence. » Là, c'est un petit ange, comme un petit lutin ou un petit enfant qui est accroché, quoi, qui se tient sur une corde, et entre deux arbres qui ne sont pas vraiment des arbres existants, et il y a un petit lionceau qui le regarde. Il y a aussi un rapport au rêve, un rapport, c'est ça aussi, c'est une ponctuation, un dessin, mais c'est aussi ce qui vous transporte ailleurs. Et ça, dans l'imaginaire, j'aime bien des dessins où vous dites, tiens, ça n'a rien à voir avec la phrase. Oui, peut-être, mais ça vous propulse ailleurs. Donc ça, c'est vraiment...
Et ça induit une légère étrangeté à votre texte pour qu'il ne soit pas simplement dans un inventaire de ce qui était et de la réalité de ce qui était.
Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que je me dis dessinatrice et pas illustratrice, parce que je ne veux pas illustrer mon propos. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un échange entre mots et images. Et ça, j'essaye vraiment de donner du sens aux deux. Vraiment pour qu'à un moment donné, il y ait une alchimie ou une collision qui provoque autre chose.
Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous. Nouez-vous à nous. Nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, sommes tous nous, vivons-nous. Fions-nous à nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Dénouez-nous, sommes dévoués-vous et nous. Dévouez-nous, dévouez-vous, sommes très doux, vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Toutes les tentatives à présent pour déclarer un « nous tous » sonnent creux. On est dans une période où, voyez, le « nous sommes tous, nous sommes Charlie », il a eu pour principale conséquence très rapidement, et la conséquence arrive de plus en plus rapidement, deux ou trois jours plus tard, de désigner qui ne l'était pas. et d'avoir un effet culpabilisateur, et d'avoir la catastrophe qui a été dans beaucoup de collèges, les enfants qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence, etc. Donc on est dans un moment, évidemment les idées, c'est une vieille idée nietzschéenne, les idées ont aussi une vie organique, et les idées elles se fanent et elles périssent aussi. Il y a eu une certaine idée, je dirais, de la paix, qu'on peut matériellement tout à fait comprendre. L'Europe a traversé une longue période de paix, en fait, hein, sur plusieurs générations. Et l'idée même de la paix s'est usée parmi nous. Elle s'est usée, on peut en faire l'histoire, hein. Il y a eu une sorte de fausse paix un peu formelle, je dirais, dans les années 80, de réconciliation. C'est la chanson We Are the World de 84, hein. C'est-à-dire, c'était quand même fait par des milliardaires américains. C'était fait par les musiciens de Toto, par Michael Jackson pour les enfants d'Afrique. Mais on avait une personne d'énonciation, un « nous sommes tous ». Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Et ça a provoqué des effets de moquerie, hein, petit à petit, qui ont fait que on a vu naître dans tous les camps, je crois que ça a été vraiment un des événements du basculement de la fin des années 90 au début des années 2000, un désir de guerre dans tous les camps. Et ça revient, malheureusement, souvent anthropologiquement, qui est quand la paix s'use, quand la paix apparaît comme mensongère, hypocrite. Le désir de guerre revient comme un désir de vérité. Vous voyez, à la Junger, hein, l'espèce de désir, au moins, dans la guerre, les camps seront clairs, les choses seront distinctes.
C'est la voix de l'auteur Tristan Garcia au micro d'Olivia Gesbert sur France Culture. Géraldine Koziak, votre livre s'appelle « Chez nous », on le disait, c'est une ritournelle littéraire qui vous permet de parler d'un endroit de votre enfance. Mmh. Il se trouve que vous le publiez à un moment donné où ce « Chez nous », on l'entend ici dans la voix de l'auteur Tristan Garcia qui a écrit, hein, sur l'idée du « nous », est un moment où le « Chez nous » est un petit peu bousculé. Il est un petit peu amené à des endroits extrêmes. Ou bien on dit un chez nous pour dire toute la limite qu'on ne doit pas franchir et tous les endroits où les autres ne peuvent pas rentrer. Ou bien on dit, on essaye de formuler un chez nous un peu ouvert, un peu accueillant. Bref, vous mettez dans le monde un livre qui s'appelle Chez nous, et c'est pas facile à dire. En avez-vous bien conscience ?
Bien sûr que j'en ai conscience. J'en ai conscience parce que ce chez nous est une singularité. Donc en fait, quand j'ai pensé évidemment au chez nous du Front National, j'ai pensé à tout ça, et c'était aussi de dire attention, parce que c'est tout à fait vrai, ce chez nous, à se mettre du nous partout, ça tue, et vraiment, je ne suis pas pour ce rapport au groupe, et je trouve tout à fait juste le fait quand il y a absolument, on nous demande toujours d'être, de faire partie de quelque chose. Et en fait, moi, pour moi, d'être artiste, c'est aussi de se dire singulier et d'avoir une porte ouverte à un autre possible. Donc, quand je mets chez nous, loin de moi, cette, alors là, vraiment, je pense que ce livre le montre, c'est de dire toutes ces singularités qu'il y a dans le livre et toutes ces personnes qui ont chacune des choses différentes à vivre font partie de la France. Et aussi bien une famille d'immigrés polonais qu'une famille qui est là de souche dans ce village. Je pense à mon grand-père où c'était pas simple d'arriver dans un village comme celui-ci, premier immigré. Bon, pour s'intégrer, il ne parle plus polonais, il fait plein d'efforts, il a même la première télévision dans le village pour que les gens viennent la regarder. Donc il se fait des amis. Et je trouve que c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas aussi, il y a une France avec beaucoup de gens qui n'ont pas souffert comme on ne le pense. C'est pas un témoignage d'une souffrance d'immigrés ou d'enfance maltraitée. Il y a plein de Français qui sont comme ça et qui vivent ensemble, qui essayent de bien vivre ensemble et qui ne se disent pas appartenir à quoi que ce soit. C'est-à-dire, moi, je pense à mes parents qui n'ont pas fait 68, parce que quand je parlais de ça aussi à ma mère, elle me disait, mais qui était infirmière psychiatrique, me disait, mais qui est-ce que tu voulais si on sortait? Qui est-ce qui allait garder les malades? Et je trouvais ça assez touchant. Ça m'a vraiment, ça m'a fait penser aussi qu'il y avait par moments plusieurs France et plusieurs endroits. C'est pour ça que le lieu est important. Qu'est-ce que sont les gens à la campagne? De qui est-ce qui parle d'eux? Comment on en parle? Et c'est pour ça que c'est pas une appropriation, hein. C'est pas de se dire, nous, on est d'ici. C'est juste de dire, nous, on est là aussi.
Et voilà ce qu'on a vécu.
Voilà.
Et voilà comment on a fait avec
oui,
nos vies.
Voilà comment on a fait avec nos vies. C'est vraiment ça. Et c'était pas non plus, je viens d'une génération où je n'ai pas eu à, mes parents m'ont laissé laisser faire les études que je voulais d'art, sans se poser de questions sur comment j'allais vivre, parce que il venait des Trente Glorieuses et que ça allait bien, même à la campagne, on vivait avec ce qu'on avait, mais on n'avait pas de hiérarchie comme ça entre, on était un peu raciste, mais pas trop, quoi. Je veux dire, c'était pas violent. Alors, ben, on a un ami arabe, mais arabe, lui, c'est pas pareil. On entendait des choses à la télévision, et c'est pour ça qu'il y avait une autre distance. Il y avait moins d'émissions, donc on pouvait parler avec les autres. Maintenant, on est tellement rempli de bruit et d'images qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on pense? Et je pense que c'est ça qui tue. Moi, ça fait 25 ans que je n'ai plus de télévision, j'écoute très peu la radio, et en fait, je suis obligée de me mettre un peu à distance pour arriver à observer et avoir une réflexion, et surtout pour pouvoir me poser, pour arriver à construire une œuvre. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'un artiste est vraiment de plus en plus en résistance, et ça devient très compliqué de dire quelque chose, parce que à chaque fois que l'on dit, il faut être dans un camp plutôt qu'un autre. Et moi, je pense que déjà, d'être artiste et d'être libre, comme chacun, hein, il n'y a pas besoin d'être artiste, mais je pense que ça, c'est une force qu'on peut avoir, c'est au moins de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans toujours être suspecté d'être dans une case ou une autre. C'est vrai que ce livre n'est pas du tout dans un chez-nous nationaliste ou quoi que ce soit. Je ne voudrais pas qu'on pense ça.
Bon, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Après le journal télévisé, quand on mange? C'est après le docteur Jiquel. Le docteur Jiquel, il arrive, toute la misère du monde. Il a dû être mazouté avec les autres oiseaux là-haut. Dans les dégrasages, quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur les ponts par Jéjiquel. Vous voyez ? Toujours que des informations épouvantables. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes. Être obligé de manger des vieux, nous âmes. Une horreur. Bon.
Chez nous, les informations télévisées n'apportaient jamais d'apaisement, mais toujours une certaine inquiétude. Chez nous, mon grand-père, Jean, admirait Charles de Gaulle et Louis de Funès. Chez nous, de Gaulle était mort à l'âge de 80 ans, d'une rupture d'un anévrisme, en faisant une partie de patience dans sa bibliothèque. Le président de la République, Georges Pompidou, déclara « La France est veuve ». Chez nous, mon père admirait Fernand Reynaud, Pierre Dac, Francis Blanche, Pierre Desproges, Jean-Yann et Coluche. Chez nous, Fernand Reynaud était mort à 47 ans, dans un accident de voiture. Son coupé Rolls-Royce percuta à très vive allure le mur d'un cimetière alors qu'il se rendait à un gala au profit d'ouvriers. Chez nous, mon frère et moi n'aimions pas regarder le JT de TF1 car le présentateur Roger Jiquel avait un ton de croque-mort, d'énormes cernes et un visage gris et grave, qui n'allait pas du tout avec les couleurs orange, bleu et rose du décor. Chez nous, on rigolait bien lorsque Coluche disait à propos de Roger Jiquel « Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes. » Chez nous, mon père aimait raconter des blagues. Chez nous, Coluche était mort à 41 ans, percuté de plein fouet par un camion de 38 tonnes qui lui coupa la route alors qu'il conduisait tranquillement sa moto Honda sur une petite route du Sud.
Géraldine Koziak, roman de Bec de Lièvre, lit un deuxième extrait de votre livre « Chez nous ». Et on entendait à l'instant le fameux passage du sketch « La publicité » de Coluche qui se moque de son journal télévisé. Ce que dessine aussi, plus ou moins en creux, votre ouvrage, c'est en effet un temps médiatique. Vous disiez à l'instant, il y avait moins d'émissions de télévision, on avait plus le temps de se parler et on avait peut-être plus le temps de penser. Mais ce qui retient mon attention aussi, c'est les passions de votre père, en l'occurrence. C'est une certaine parole. C'est une certaine parole médiatique où peut-être... Peut-être la question de la liberté, la possibilité de choquer, la possibilité de faire rire avec des choses grinçantes peut paraître, alors je sais pas, moi j'ai en effet peut-être pas de vision exhaustive du paysage médiatique, mais pouvait paraître un tout petit peu plus grande.
Ah oui, là quand on le voit avec Coluche, c'est on n'a plus personne qui peut parler comme il parlait. Je pense que c'est vrai que cette histoire...
Est-ce que c'est sûr? Parce qu'on a tendance aussi à faire du passé un moment où il était plus facile de parler librement, de se moquer de tout, d'être plus grinçant dans ses blagues, dans son humour.
Je pense que c'est la communication qui a coupé tout, l'herbe sous le pied à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que Coluche, même s'il y avait de la médiatisation chaque fois qu'il faisait un acte, je pense qu'il n'avait pas vraiment une grande conscience de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression qu'un humoriste ou un artiste, dès l'instant où il pose quelque chose, j'ai l'impression qu'il pense plus à la communication ou à l'élan que ça va porter, plutôt que de construire quelque chose. Je pense que Coluche était fondamentalement libre et qu'à un moment donné, des choses le dépassaient. C'est-à-dire qu'il actionnait, il jouait, et qu'à un moment donné, ça prenait des proportions qui pouvaient être démesurées par rapport... Il y avait le sens du jeu, et c'était pas cynique, c'était vraiment une observation de ce qu'il y avait autour de lui. Et je pense que ça manque. C'est drôle, hier, j'ai été voir un film avec des amis, je regardais le film de Wim Wenders, Alice dans les villes, et en fait, on est sortis, on avait vraiment tous la même réaction. Dans ce film, c'est une petite fille comme ça, un homme qui la prend dans l'aéroport, sa mère lui dit qu'il faut qu'il l'emmène Amsterdam, et en fait la mère la laisse et ils partent comme ça, les deux. On se disait que c'était plus possible, on pourrait plus prendre un enfant comme ça et de le faire se déplacer en avion pour l'emmener dans un autre lieu. Et on se disait aussi, tiens, il y avait une scène comme ça avec cet homme nu dans la baignoire et cette petite fille qui lui parlait à côté. Ça serait, on se censure déjà avant. Je pense qu'il y aurait plus un scénario de film qui serait possible comme ça. Il y aurait tout de suite le côté de la pédophilie ou des choses qui arriveraient. Et je pense que là, déjà, avec Coluche, on le voit bien, il y avait pas tout ça. C'est là que je dis la liberté de la parole. On se formate tout seul, en fait. Hein. Je pense aussi bien les journalistes que les artistes. On se dit qu'il faut, pour avoir peut-être un peu plus d'aura ou plus de place pour communiquer sur le travail. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a moins de liberté. Mais c'est peut-être moi qui le mets. Mais quand on se donne beaucoup de liberté, en tout cas, on est moins vu, on est moins médiatisé, on rentre moins dans le moule, hein, même au niveau artistique. Donc je pense que c'est peut-être ça qui a changé, c'est la communication.
C'est une liberté que vous chérissez et notamment qui vit très fort dans vos dessins, Géraldine Koziek. Alors vous parlez justement d'hommes nus, mais il y a plusieurs dessins où des sexes d'hommes s'invitent à des moments où on les attendait pas. Je pense à une espèce de couple de sardines, non? Ou je sais pas si c'est des poissons qui ont des têtes en forme de gland, ouais. de sexe d'homme, ou des petits dessins qui, bon, par exemple là, je sais pas, c'est un dessin où un corps de femme est allongé et on lui coupe la tête. Oui. Sinon de la liberté, en tout cas, comme une forme de quelque chose de cru, au sens, je sais pas, c'est ce mot-là qui me vient à l'esprit.
Oui, c'est vrai. Quelque chose de brut, en fait. Ouais. Quelque chose qui
a un
impact.
Brut tout à l'heure,
oui, ouais. Oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait un impact comme ça. Le dessin doit vraiment vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vois? Oui, c'est un peu ça. Le noir et blanc aussi. En fait, c'est ce que je dis, hein. Dès qu'on a fait les beaux-arts, on sait que si on met de la couleur, ça va plus attirer. Moi, j'enlève tout dès le début, hein. Donc, je mets pas beaucoup de traits. Donc, il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait de l'impact. Donc, ce que je fais, ce que je dessine, il y a presque une forme, quand je dessine, d'amusement. J'ai envie de me surprendre. Et puis aussi, presque de méditation. C'est-à-dire, quand on dessine, c'est très plaisant parce que, on prend le temps. Moi, je dessine avec des tout petits crayons, donc ça me prend encore plus de temps. Et puis, je regarde tous les détails. C'est vrai que quand je fais un poisson avec un gland d'homme, je me dis, oh, c'est drôle, mais c'est un peu quand même... J'ai l'impression que je franchis les bornes, en fait. C'est pas vraiment des grandes bornes, mais je me dis, tiens, c'est drôle de mettre ça. Puis je me dis, oh, bah, maintenant, dans le livre, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a du sexe. Normalement, ça devrait vendre.
On sent aussi que vous laissez la place à des choses, en effet, que vous n'avez pas forcément pensées sous toutes les coutures et que peut-être que certaines images reviennent. En regardant les dessins que vous avez faits, je pensais donc à ces dessins, bon, à des gravures de Goya évidemment, à des dessins de cartes à jouer, de cartes de tarot, et aussi à des dessins presque mythologiques, par exemple la louve qui donne son lait à Romulus et Rémulus, c'est un chez-nous qui est vraiment la fondation de la ville, la fondation. Là aussi, il y a des étrangetés qui s'invitent. C'est une image étrange, celle que Romulus et Rémulus tétant la louve, et en même temps. Tellement de choses passent justement dans cette étrangeté, comme si vous aviez cherché à être à cet endroit-là, un endroit un peu mythologique.
Ouais, je revisite en fait. J'ai la chance d'aller à la Villa Médicis et en fait j'ai redessiné beaucoup la Louvre et j'ai redessiné beaucoup de choses. Je pense que d'aller assez loin, du côté des ancêtres, de la mythologie, ça nous ramène à un temps. Ça nous pose et ça nous permet de regarder un peu différemment l'époque où l'on est. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le côté de l'intemporalité des dessins, c'est qu'en fait on pourrait les placer où on veut, et quand on rejoue aussi des gravures ou des dessins anciens, on a l'impression qu'on les ramène vers nous. C'est un peu quand je parle des gens qui sont morts, c'est de se dire, tiens, ramenons les dessins et plaçons-les là et voyons ce que ça fait maintenant. Et donc je joue
avec l'enfance, ramenant l'enfance.
Toujours, le jeu, c'est vrai quand vous disiez les cartes à jouer, ou même de dessiner par moment, avec une certaine... c'est précieux, mais c'est un peu... Des fois, j'adore faire des têtes un peu plus grosses, je change les proportions. Moi, je pense qu'un livre aussi, c'est une histoire de forme, c'est une histoire de composition, de faire un dessin où la tête est un peu plus grosse que d'habitude, et que d'un coup, on a l'impression d'un masque de carnaval. On ne regarde plus l'humain de la même façon, donc on le déplace, et ça donne à pour le lecteur, en tout cas ce que j'essaye de faire, ça lui permet de se questionner et de ne pas lire une petite histoire, quoi. J'ai envie d'être...
Ça empêche ça.
Oui, c'est Kafka qui disait ça, il fallait faire des livres qui tapaient, quoi, sinon ça sert à rien. Il faut que ça vous prenne un peu aux tripes, quoi, que vous vous dites, tiens, ce dessin il est quand même un peu gonflé, ou la phrase elle a quand même un peu abusé. Quand elle parle de quelqu'un, elle y va pas de main morte, ou un peu comme Coluche. Moi, quand je l'écoutais, franchement, il disait des trucs. J'étais un peu petite. Je me disais, oh, il est gonflé. Et ben, j'aime bien ce rapport d'être un peu gonflé.
Les cheveux de ma sœur. Capturée par ma main. Volée pour qu'elle m'embête. Là, faut qu'on se console. Son sourire sous ses larmes. J'y dirai que je l'aime demain. En attendant, frangine, nos joies creusent des rigoles. Les dubas à la bonbon piqués à ma maman. À la bourse de l'amour font une fortune d'un rien. Son cahier à chansons chanté de temps en temps. Quand je m'en foutais bien, j'avais tout. Il est mien. Les soirs de réveillon, on osait s'embrasser. M'en fous du comment. Père Noël, faut voir ce qu'on était beau. Et les dimanches d'ennui, mon père me faisait des jouets. Ouais. Comme on dit par chez nous, j'ai du sang, j'ai d'un lio. C'est du sang, c'est pas de l'eau. Je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours. Et quelques pas plus tard, je suis tombé d'amour. Pour une pas pareille qu'a su me faire pousser. Rien que d'y rêver, je crois que la vie, je suis pour. Nourrir sont ma fierté, on a tout inventé. On a appris nos corps, on a mêlé nos têtes. Et on s'est ressemblé des jumeaux amoureux. De la peur de grandir, on a fait une fête. Il y en avait plein pour nous, et un peu moins pour eux. Si les ans, ben voyons. Nous ont refait étrangers, je recompte en moi nos dizaines de milliers d'heures. Alors c'est pas toi qui m'apprendra à langer. Porte-toi bien, petite madame. Je vous rends au bonheur. Et je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours et vivement demain.
L'ethnologie, c'est d'abord l'interrogation sur l'autre. On ne peut pas avoir l'interrogation sur l'autre sans avoir aussi l'interrogation sur soi-même. Cette interrogation, c'est un changement de discipline, même si vous voulez, comme l'étude du sacré dans les sociétés humaines, et donc l'histoire comparée des religions aussi. On s'aperçoit peu à peu qu'il y a un enchevêtrement de signes et qui passe à travers toutes les civilisations et qui passe à travers les moments de mutation de la vie, vous savez, les grandes dates de l'existence à partir desquelles on fonde une monographie en ethnologie, les passages, c'est-à-dire la naissance, la puberté, la mort. Et on s'aperçoit qu'il y a donc un aspect sacré de toute chose dans la vie, y compris des choses les plus simples. Il y a un canevas, un tissu indéchirable, on peut dire, de symboles dans toute la réalité qui est fondée sur les rapports de l'homme et du monde.
C'est la voix d'Alain Gerbrandt, cher Alain Gerbrandt, c'est une archive de 1970, au micro de Roger Pilaudin. Alors, vous terminez votre livre, Géraldine Koziak, avec cette phrase « Chez nous, on considérait l'homme avec curiosité, comme on considérait un cheval, un arbre, un élément quelconque de la nature. » Et Alain Gerbrandt parle d'une ethnologie comme une interrogation sur l'autre. Avez-vous eu l'impression, avec ce petit livre « Chez nous », petit livre par sa taille, de faire quelque chose de cet ordre-là?
Ouais, c'est une grande, c'est lourd, hein, mais oui, je pense que j'ai voulu quand même, il y avait un rapport ethnologique ou sociologique, plutôt, je regardais ce qu'il en était, mais on a tellement de gens autour de nous, je pensais aussi aux pensées de Pascal, j'avais entendu, tellement de choses et tellement lu de textes qui se questionnaient sur le soi pour parler des autres, qui ça m'a paru un peu ce texte. J'ai voulu savoir aussi ce que j'étais au milieu de tout ça, comment on vit au milieu des autres, qui on est et comment on observe. Et c'est vrai que la phrase de la fin, je regardais aussi bien les animaux que la nature, que tout ce qu'on a autour de nous. Et là, ben, on est bien peu de choses. Et il faut continuer. Et je me disais ça aussi dans le côté éthologique, quand c'était presque d'arriver au milieu d'une tribu. Mais c'était en France.
Et c'était la vôtre.
Et c'était la mienne. Donc quand on regarde ça de façon un peu à prendre de la distance, comme si on était à l'étranger... Et c'est souvent ça, quand on voyage, on est plus concentré, on observe, quand on est touriste, on est vraiment attentif aux moindres gestes des autres. Et ben, j'ai un peu essayé de faire ça chez moi, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment me remettre dans les conditions à observer chacun et à observer vraiment ce qu'on avait fait. Et quand c'est un petit endroit, et ben, on voit mieux parce que on n'essaye pas de parler de tout. On essaye de parler de soi et ça parle des autres. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Et ça, c'est vraiment l'observation que j'ai pu constater, quoi. On n'est pas différent qu'un Japonais, quoi. Chaque fois que j'ai été à l'étranger, une mère me parle de ses enfants. Elle me parle de ses problèmes de couple. Je veux dire, on est tous semblables quelque part. Donc peut-être qu'il faudrait que les gens qui pensent qu'on est différents les uns des autres
s'en souviennent.
Oui, je pense qu'il faut s'en souvenir.
En dehors de votre maman à qui vous aviez parlé de ce projet, voire à qui vous lisiez régulièrement l'écriture de votre texte qui avançait, Géraldine Koziak, les autres, ceux qui font partie de ce paysage mental, alors pour les vivants, parce qu'il y a pas mal de morts, étaient-ils au courant de votre observation?
Ah non, j'espère même qu'ils n'iront pas le livre, hein, pour certains, je veux dire. Non,
Mais c'est une question qui se pose, hein. C'est-à-dire que quand on revient chez soi, puisque vous avez dit « je suis revenue chez moi » après avoir pris la distance qui a été celle de votre vie d'adulte.
C'est toujours délicat d'écrire sur l'endroit, le pays natal, comme diraient les Japonais, mais je pense au livre de Pierre Jourde. J'ai pensé aussi à des écrivains qui écrivaient sur les endroits en disant des choses. C'est pas simple, hein, d'écrire sur, euh, sur un village, même si vous n'en dites pas grand-chose, mais quand même, on sent bien des différences de classe, on sent aussi des gens pas très sympathiques, on est en train de décrire quelque chose qui est une réalité, donc c'est pas tout beau. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit le village de Oui-Oui, où tout le monde s'aime et tout ça, mais d'un coup, ça devient maintenant une ville un village presque dortoir, comme il n'y a plus vraiment de vie de village. Et mon père continue... c'est celui qui connaît le mieux le territoire, il connaît tous les lieux dits, il connaît, et donc il travaille à la mairie. C'est quand même très touchant aussi de voir une personne qui continue à essayer de transmettre son village à d'autres. On se balade, il le fait aussi avec mon fils, il est en train de montrer ce qu'il aimait et ce qu'il aime toujours. Donc moi, je continue à aller au bois avec lui, j'écoute ses histoires de chasse, et mais c'est pas simple quand même. Mon père, je crois, a lu le livre, il me dit ouais, c'est pas toujours vrai hein, ce que tu dis. Donc là, ça s'est arrêté là, donc c'est très bien. Je pense que c'est le premier livre qu'il lit que j'ai fait. Et pour les autres, eh ben, il y a 2-3 amis déjà qui l'ont lu de mes parents, mais bon, on n'a pas. Je ne sais pas qui le lira. J'ai rien dit en tout cas. Hein. J'ai pas fait une annonce officielle à la mairie de mon village pour dire que j'avais sorti quelque chose. Donc ça s'arrêtera. On verra ce que les gens pensent s'ils le lisent.
Ça ne s'est jamais pensé, ce livre-là, comme pouvant s'appeler « Chez moi » ?
Ah non. Non, non. Non, non, parce que j'avais vraiment envie de parler de cette France. C'était pas chez moi, c'était un lieu parmi tant d'autres, mais qui évoque aussi les autres. Le moi n'a pas vraiment d'importance hein, dans ce livre-là. D'accord, j'ai pris ma famille, mais je veux dire... Parce que je la connaissais, mais j'aurais pu prendre une autre famille. Je pense que c'est dès l'instant où c'était plus simple. Mais j'aurais pu aller 6 mois ailleurs et parler de d'autres personnes. C'est pas tellement l'important, le moi.
Voir à l'inverse, c'est-à-dire quand je commençais l'émission en disant que il suffit juste parfois de dézoomer, de changer un nom de lieu ou un prénom de quelqu'un ou le nom d'un chien pour pouvoir prendre à part entière les regards que vous posez sur ces endroits-là et les poser à son tour sur d'autres endroits.
Oui, c'était ça. Mais en fait, avec les livres que j'essaye de faire, c'est vraiment toujours d'essayer à ce que le lecteur pense à lui. Et ça, c'est pour ça qu'il faut arriver à être juste tout en étant par moments dans les clins d'œil ou je le prends comme compagnon, le lecteur. Donc j'ai vraiment envie qu'il soit au milieu de ça et qu'il se dise pas juste que c'est un témoignage ou c'était pas du tout l'intérêt. Donc ce chez nous n'était pas là en pensant... Je m'enlève presque de la situation par moment, quoi. C'est étrange de dire ça. Je suis très peu présente, hein. Je m'évoque 2-3 fois, mais pour raconter autre chose de l'autre. J'ai envie d'observer mon frère, donc je dis que je suis avec lui. Mais j'ai pas du tout je suis pas plus intéressée, quoi. C'est pas très intéressant. Moi, j'ai l'impression d'être. J'aimerais être un récepteur qui aimait, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais
faire.
Vous êtes
à la radio, ça tombe bien.
Eh ben, c'est pour ça, émettons.
Géraldine Kozak, merci beaucoup. Votre livre s'appelle « Chez nous ». Il est paru dans la collection « Le Courage » aux éditions Grasset. Et chez vous, Nina Hagen faisait peur à votre mère. Par les temps qui courent, de quoi vous méfiez-vous ?
Ah, de la connerie.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait sourire ?
L'humour. Vraiment, l'humour de mon fils.
Par les temps qui courent, qu'est-ce que vous trouvez doux ?
Oh, mon chien.
Il est très doux ?
Il n'est pas vraiment doux, mais il a un regard tellement doux que ça me fait du bien.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain. Nous aussi, nous serons un récepteur émetteur 21h sur France Culture. Quand vous voulez, via franceculture.fr ou en podcast, sachez que vous pouvez aussi vous abonner à des bouquets de podcasts. Ça ne périt pas. Au son ce soir, c'était Nadège Antonini à la réalisation, Olivier Guérin, Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.